Tu n'as jamais vraiment été seule. Même maintenant. Maintenant que tu es mort. Car aujourd'hui, c'est mon tour. Ce que tu as fait pour les autres quand tu étais enfant, ta voix dans le noir, leur raconter des histoires alors qu'ils étaient morts depuis longtemps, je vais le faire pour toi. Je vais te raconter ton histoire. Quand tu m'as sauvé la vie. Quand tu m'as nommée la reine des hasards. Rappelle-toi, le temps n'est pas stable. Il fuit comme l'eau, se mélange comme le sable, brûle comme l'air, se traverse sans effort. Tu le traverses sans effort, mais tu ne peux rien voir autour de toi. Seulement un monde fantôme, un monde flottant. Tu le traverses sans effort, et j'essaie de te rattraper par ma voix. Viens, installe-toi. Fais-toi rond et doux et suave et tranquille. Parfois, il y aura d'autres voix que la mienne, pas toujours très distinctes. Elles te murmurent, elles t'attendent, elles t'entourent. Elles te chantent le chemin du retour. Petit Ulysse qui a goûté à la fleur de l'oubli. Tu n'es pas là où tu crois. Tu ne respires pas le même air que moi. Tu t'appelles fidèle. Tu as 34 ans. Tu es né en Allemagne de l'Est vers la fin de l'Empire soviétique.
La Reine des Hasards de Marianick Bello. Réalisation Juliette Eman.
Шел под красным знаменем командир полка.
La première chose que tu m'as racontée, c'est oncle Petre debout sur la table, les bras en l'air. Tu finis ton bol de chocolat. Descends, oncle Petre.
Descends, oncle Petre.
Descends, oncle Petre. Tu finis ton bol de chocolat.
Descends, oncle Petre.
Descends, oncle Petre.
Ces chaussures sont près de tes petits biscuits et cela te dérange. Tu n'aimes pas quand c'est trop le désordre.
Regarde, je suis un arbre. Tu vois le vent dans mes branches?
Oncle Petre agite les bras. C'est le vent.
Descends,
oncle Petre.
Et ne sois pas si triste.
Avant, j'étais un homme parmi les hommes. Maintenant, je ne suis plus un homme. Je suis un arbre. Je vais dans la forêt pour être un arbre parmi les arbres.
Oncle Petre n'est pas vraiment ton oncle. D'ailleurs, il est tchèque et toi, tu es allemand.
Allemand de l'Est.
Vous êtes tous les deux communistes.
Vraiment communistes.
Plus communistes que le parti que vous trouvez, toi et ta mère, trop loin du peuple.
Oncle Petre n'est pas vraiment ton oncle. Mais il est là depuis toujours.
Depuis avant ta naissance même.
Oncle Petre est debout sur la table. Le même oncle Petre qui te fabrique des marionnettes avec des bouts d'allumettes et des emballages d'aluminium. Oncle Petre qui chante avec son ukulélé les marches des jeunesses communistes. Oncle Petre qui te parle de Fidel et de Cuba dans un espagnol qu'il invente pour toi.
Et tu sais, si petit que tu sois, que oncle Petre est triste et drôle à la fois.
Oncle Petre est comme toi. Il est drôle pour toi. Il t'enveloppe de ses tours de magie, de ses tourbillons de gestes, de ses mots inventés comme des jouets étincelants.
Oncle Petre vient d'un pays que tu ne verras jamais, Cuba.
De tous les gens qui passent dans l'appartement, oncle Petre est un repère.
Oncle Petre est comme ta famille.
Oncle Petre répond à tes questions. Si tu posais des questions.
Mais tu n'en poses pas.
Descends, oncle Petre, et ne sois pas si triste.
Des années après, tu te souviens de toi disant « Ne sois pas si triste ». C'est étrange. Comment pouvais-tu savoir que oncle Petre était triste ? te reste aussi l'agacement de voir ses chaussures juste à côté de ton goûter. Oncle Petre descend.
Oncle Petre descend et il a toujours son manteau sur les épaules.
Il est bizarre tout de même. Il a disparu 2 jours, maintenant il revient.
Il monte sur la table pour faire l'arbre et il repart sans avoir posé son manteau.
Disparaître et repartir aussitôt.
Disparaître des jours, revenir et repartir aussitôt.
Il descend. Et avant de partir, il te caresse la tête. Peut-être, mais tu ne t'en souviens pas vraiment. Tu te souviens que souvent, il te caressait la tête dans un sens, dans l'autre, parfois n'importe comment. Alors, cette fois-là, tu veux croire qu'il t'a caressé la tête. Il t'a dit qu'il allait dans la forêt pour être un arbre parmi les autres arbres comme lui. Il t'a dit de...
Petit garçon, passe me voir dans la forêt de temps en temps. Passe me voir, je nicherai des oiseaux.
Et il est parti.
Il est parti en marchant comme un homme, de sa démarche habituelle.
Pas de branches qui dépassent du manteau, ni de vent dans les arbres.
Et tu as fini de prendre ton goûter. Tu m'as parlé d'oncle Petre qui est allé se pendre dans la forêt. Quelques jours plus tôt, la Stasi l'avait attrapé. Un homme de chaque côté. Il l'avait emmené et il avait parlé. Donné qui ? Parler de quoi que les policiers ne sachent pas déjà ? Oncle Petre avait pris sa ceinture pour se pendre à une branche. Il n'avait pas supporté d'avoir donné les noms de ses camarades. Et tout cela était une mascarade. Les policiers avaient choisi ce clown apatride et lui avaient déchiré le cœur comme s'il était en papier, entre 2 tasses de mauvais café et une pile de formulaires avec leur double carbone.
Voilà, comme ça, oui, un pas en avant, on revient, pas sur le côté.
Te reste qu'il t'avait appris à danser la rumba. Un pas en avant, on revient, pas sur le côté, pause, et un pas en arrière, on revient, pas sur le côté, pause.
Tu es un merveilleux danseur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le mur est tombé quelques semaines, quelques mois après sa mort. Quelques semaines, quelques jours après sa mort, l'automne est venu. Le vent sentait la terre, une bonne odeur. Et ses feuilles dansaient tout autour de toi.
Dans l'oreille, dans le fait silence, fais silence,
fais silence.
Dans l'oreille, fais silence.
Tu sais d'où vient ce cœur de voix. Au commencement, quand tu étais enfant, enfant unique, oui, mais jamais seul, quand tu poussais la porte de ta chambre, dans le vieil appartement, ils étaient là, dans le noir, leurs yeux grands ouverts. Pas hostiles, non, mais nombreux, silencieux. Le silence prenait une épaisseur particulière, comme si l'air traversait des couches et des couches de coton avant d'atteindre tes oreilles. Alors tu te mettais au lit, sagement, dans ton pyjama vert décoré d'une petite auto. Il restait là, tout autour de toi. Il t'avait attendu toute la journée, et maintenant que tu étais là, il ne savait pas vraiment quoi faire. Ils attendaient que tu racontes leur histoire. Peut-être y avait-il plusieurs histoires, nombreux comme ils étaient. Une histoire par enfant dans le noir. Une histoire pour que les choses soient dites. Pour que leurs yeux se ferment. Mais tu ne connaissais pas leur histoire, ni de quoi elle était faite. Alors tu avais pris l'habitude de leur lire une histoire chaque soir. Un conte de fées, une fable, à haute voix. Une histoire différente à chaque fois. Attentif, il t'écoutait, un peu plus resserré autour de toi, dans un silence devenu cristallin. Un à un, ils disparurent. il y eut l'âge adulte. L'oubli, l'écho d'un oubli. Où vont les morts quand on ne les entend plus? Et toi, fidèle, tu es trop occupée à ne pas savoir où est ton petit garçon. Tu préfères te perdre. Et ces jours-ci, tant d'années après, je te vois arrêté au rond-point en bas de l'avenue. C'est l'automne et le vent souffle les feuilles. Le vent porte la bonne odeur de terre noire et tu t'attends à ce qu'oncle Petre te rejoigne, mais il ne vient pas. Tu ne peux pas t'empêcher de l'attendre. Cette nuit, comme toutes les autres nuits depuis que tu es revenu à Paris, tu as rêvé de lui. Au fond, tu as un tout petit peu peur de devenir fou.
Tu as envie de parler aux arbres maintenant.
Oncle Petre était bien avec toi cette nuit. Et toutes les autres nuits que tu as passées ici, il répondait à ta question. Il disait...
Oui, ton fils est vivant.
Oui, vivant. Ton fils est vivant.
Et nous sommes avec lui d'une certaine façon.
Et nous sommes avec lui d'une certaine façon comme nous étions avec toi.
Qui est ce nous dont parle oncle Petre? Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas le savoir. Pas encore. Et est-ce que c'est une bonne chose que nous soyons avec ton fils? Ça, c'est une question difficile. Très difficile.
Disons que c'est comme ton prénom. Il y a des choses qui sont comme ça et on ne peut pas les changer.
Et nous sommes avec ton fils. Sous ses pieds. Nous le portons.
Nous portons ses pas.
Et quand il se couche, nous lui chantons. Nous fredonnons très doucement. De vieux contes. Des balades sans paroles.
Et parfois, dit oncle Petre, quand le vent souffle, je lui apprends à danser la rumba. Toi, tu ne veux encore rien voir. Tu tisses un cocon autour de toi, fait de rêves, de projections, de souvenirs d'avant l'accident.
Tu déconnes complètement. Fidèle, il est 3 heures. Et viens te coucher.
Je finis juste ça.
Fais gaffe à pas te coucher trop tard. Et viens. Viens te coucher avec moi. Tant pis.
C'est pour le boulot.
C'est toujours pour le boulot. C'est quoi?
C'est mon rapport d'expertise sur la région parisienne.
Mais t'es pas encore parti?
Mais c'est pour ça qu'il est vraiment bon. Il est totalement objectif. Une fois que je serai là-bas, je serai sous influence.
Sous influence?
Le café, la tour Eiffel, les petites femmes de Paris. Aïe!
Et qu'est-ce que ça a à voir avec ta marque de voiture allemande?
Les petites femmes de Paris?
Est-ce que les femmes de Paris achètent des voitures allemandes? Pourquoi oui, pourquoi non? Ben, tout est là.
Alors, est-ce que les femmes de Paris achètent des voitures allemandes?
Les femmes de Paris prennent le métro, le Vélib ou le bus. Et pour celles qui ont les moyens, elles ont de ridicules petites Fiat bicolores. D'autres questions?
Et pourquoi on t'envoie là-bas, si les Françaises aiment les Italiennes?
Pour que les Françaises aiment les Allemands? Parce que je suis irrésistible. Parce que je comprends l'esprit français. Par exemple, quand un serveur dans un bar t'ignore, ça veut dire que tu es très bien vu. Il t'aime bien, à sa manière. Il sait qui tu es. Il n'a pas besoin de se fatiguer à être aimable avec toi. Tu es en quelque sorte familier. Il va pouvoir te faire poireauter 15 minutes, sans culpabiliser, détendu. Pendant que toi, tu vas pouvoir profiter de toutes les choses incroyables qui se passent à Paris en 15 minutes.
Mais si t'as déjà tout écrit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas?
Je fais une enquête auprès des Français et je vais voir des concessionnaires en banlieue pour comprendre comment nos voitures pourraient se vendre mieux, comment la marque que je représente pourrait devenir la voiture de tous les peuples, y compris du peuple français. Et la banlieue, c'est le peuple.
Bah, on vend moins, hein, c'est sûr. Hein. Déjà parce que les gens ont moins d'argent. Par contre, l'écologie, ça touche pas les gens dans le concret. Hein. Diesel ou essence, ce qui les intéresse, c'est leur porte-monnaie, les gens. Hein.
Volkswagen, c'est pas la voiture qui est dans les années 30-40, c'est ça?
Pour connaître que j'ai une voiture et que j'y suis très attachée. Elle s'appelle Twi Twi.
La voisine. Voiture allemande.
Vous voulez faire une
interview
là?
Voiture allemande.
La voisine.
Et maintenant tout est délo. Enfin, c'est pas fait en France quoi. C'est comme le foie gras.
Ah non, j'achèterai pas une Volkswagen. Enfin, déjà, je trouve que c'est impossible à dire. Volkswagen, pour moi, c'est grand, fort, agressif. C'est mon ex quoi.
La voiture, on sait pas pourquoi. On rentre dedans, on s'embrouille. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très calme. Et ben, dès que je suis au volant, je deviens bête, mais bête, hein. Je deviens violente.
Je m'appelle Fidèle. Ça fait marrer les Françaises.
Fidèle, ah oui.
Ma mère me parlait en français. Elle trouvait que les mots d'amour sonnaient mieux en français.
Vous avez l'air inoffensif, rond, charmant.
Ma mère ne me parlait qu'en français. Même pour me dire de mettre la table. Car tout, selon elle, tout était mot d'amour.
Moi, je suis mannequin.
Ma femme est marocaine et nous parlons français. Car tout est mot d'amour. Même faire le lit, ramasser les chaussettes ou revenir à vélo.
Vous ne faites rien, mais vous le faites si bien qu'on a envie de le faire avec vous.
Ma femme est traductrice, elle travaille la nuit. Je travaille ici, à Paris.
Et vous êtes vraiment fidèle, alors?
Ma femme me manque. Ici, tout le monde parle français. Une ville entière qui ne dirait que des mots d'amour. Pour aller à République, changer à Gare du Nord. Même les insultes sonnent bravement. Hé, hey, connard, va te faire fourbir la loutre. Voilà.
Vous aimez Paris? Moi, je suis fidèle à Paris. Si je mourais, je voudrais revenir hanter Paris.
Ma femme me manque. Ma femme me manque terriblement. Les premiers mois, avec Leila, je ne dormais jamais longtemps. Parfois, j'ouvrais les yeux et elle était là, penchée sur moi à la lumière d'une bougie.
Pourquoi une bougie?
Pour la mythologie.
La mythologie? Tu veux pas me faire un café plutôt?
Si, il est prêt. Ton café va être servi par une femme plus favorisée qu'une déesse grecque.
J'espère que tu apprécies.
Ah. La mythologie, parce que quand Psyché fut enlevée par Eros, elle le regardait dormir en secret, à la lueur d'une lampe à huile.
Et?
Ah, et j'ai pas de lampe à huile, alors je me suis dit qu'une bougie ferait l'affaire.
D'ailleurs, une goutte d'huile brûlante tomba sur Eros. Et il dut s'enfuir, car aucune mortelle ne devait contempler sa beauté. Fut-elle sa femme? J'ai donc bien plus de chance que Psyché, qui a dû trier des petits pois et pleurer toutes les larmes de son corps avant de gagner le droit de revoir son homme.
Je te vois pas du tout trier des petits pois, même par amour.
Par amour pour toi, je pourrais faire bien des choses. Même la vaisselle.
Ou passer l'aspirateur.
Oui. Bon. Bon, il y a d'autres choses que je préfère faire par amour pour toi.
Le café.
Le café.
L'amour.
Et les chansons.
Oh non, pas les chansons, pas de chansons maintenant. Pas avant 8 heures du matin. Non, d'abord les infos.
Je te les chante.
Si, si, laisse-moi faire.
Aujourd'hui, catastrophe économique, catastrophe écologique, catastrophe sociale et nucléaire. Et nous commençons tout de suite par les résultats du football.
Ne me regarde pas comme ça. Je déteste quand tu chantes.
C'est complètement déloyal.
Je suis perdu. Ce que je vois, ce sont les petits chaussons de mon fils, oubliés au milieu du salon. Pourtant, si j'avance, je me cogne contre les murs de la chambre, ici, à Paris. Je n'y arrive plus. Où est mon garçon? Pourquoi ne suis-je pas près de lui? Ah oui, le travail, travailler. Mais personne ne peut y croire, n'est-ce pas? On ne va pas à Paris pour le travail. On va à Paris pour le rêve. Un rêve lent et calme. Un rêve de promenade sur les quais pavés, de bistrots éclairés, de réverbères qui fleurissent en volutes sous la pluie. Et puis on y est. Et le métro pue. Les gens ont l'air de retenir leurs larmes derrière leur visage gris. La petite fille, avec un air de madame, traverse la foule, les yeux rivés à son téléphone. Comme partout. Et pourtant, il y a une douceur dans l'air. C'est l'automne, c'est le printemps, c'est une saison qui n'existe qu'ici, quand il aurait dû faire gris et que malgré tout, les arbres ont un air de fête. Si j'étais déjà mort, si j'étais mort, je crois que je reviendrais une dernière fois ici. La ville est d'une infinie mélancolie.
La voiture, c'est comme l'eau courante, quoi. On a oublié comment c'était avant. Et puis c'est beau, une bagnole.
Les voitures allemandes, moi j'en sais rien. Moi je sais juste que mon grand-père... Il a été malgré nous, il s'est retrouvé sur le front russe. Et en fait, quand il est rentré de la guerre, du coup, bah, en fait, il jurait que par les Lada. Vous voyez les Lada? Et mon père, il disait que c'était une voiture de merde. Et donc du coup, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Moi, ça me faisait rire quand j'étais petit.
Ça, je pense jamais à la mort. Hein. C'est vrai ce qu'elle chante par bout. À la vitesse, on la sent, hein, au premier. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. De la machine. Vous la connaissez pas? Non.
J'espère pour tout le monde que je ne conduirai jamais. Mais alors jamais. Hein. La Volkswagen, ça va trop vite. Moi, quand je vois une qui passe, bah, je m'arrête. Hein. Stop.
Bien sûr, j'ai une voiture. Une Peugeot 7 places. Autrement dit, un bébé tank. Dans toutes les histoires, je remplace le grand méchant loup par le grand méchant camion.
Voilà, moi d'une part, j'ai pas le budget, hein, puis après, j'ai pas un mode de vie non plus. Je fais des petits trajets, puis en fait, si, pour tout vous dire, sincèrement, si je pouvais me passer de ma bagnole, c'est bon, parce que j'ai un rendez-vous, en fait, faut que j'y aille.
Tu visites deux ou trois concessionnaires au hasard, bavardes un peu.
Et puis tu te perds, délibérément.
la banlieue française. Cette collision d'hypermarchés, de maisonnettes, de champs et de murailles d'immeubles te fascine.
Des espaces étranges.
Pavillon carrelé d'azuleros, maison de la solidarité des années 70, préfabriqué de hard discount.
Un mouton en laisse devant un supermarché, au détour d'un rond-point.
Tu aimes aller à la dérive.
À Paris, ce que tu aimes aussi, c'est le humour.
Ce café tellement français, à côté des jardins du Palais Royal.
Donc tu retournes au Nemours ce jour-là. La reine des hasards a rendez-vous avec toi.
Mais tu ne le sais pas.
Quelque chose bascule quand tu arrives. Mon cœur se serre. Envie de chanter. Je suis revenue si souvent au Nemours dans l'espoir de te revoir. C'est long, une vie. Je pensais que tu ne viendrais plus. Mais là, tu es là. Tu es là. Et tu ne me reconnais pas. Alors je comprends. Pour toi, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Pour moi, c'est la dernière. Toi, tu as toujours 34 ans, éternellement. Un homme égaré dans les strates du temps. Un mort qui s'ignore. Moi, si je suis la seule à pouvoir te voir, à cette terrasse pleine de monde, c'est que j'ai le privilège de la mort qui approche. Je t'aurais vu de loin en loin, à 80 ans, à 23 ans, à 6 ans, à ces moments où la mort me guette, si proche que je me tiens debout en m'appuyant sur elle. Tu t'es installé en terrasse contre la baie vitrée. En t'asseyant, tu me souris. Une vieille dame élégante, venue profiter elle aussi du soleil à la fin de sa promenade. La fin de sa promenade. Tu parles d'une métaphore. Tu me souris et mon cœur décroche. Tu regardes le boulevard, la place de la Comédie. Tu n'as pas tellement changé. Du haut de mes 6 ans, la première fois que je t'ai vu arriver dans ce café, je t'ai trouvé beau. Tu es venu vers moi. Et j'ai pensé, comment est-il possible que personne ne le remarque, avec sa chemise chiffonnée, son pantalon bleu et sa coiffure bizarre. J'ai longtemps cru que tu étais un ange que moi seule pouvais voir, avant de comprendre que tu es juste un fantôme perdu dans le temps. Je suis contente de vous voir.
Merci.
Quel endroit merveilleux.
C'est mon endroit préféré dans Paris.
Vous venez d'où ?
De Halle. Halle, c'est une ville en Allemagne. Et vous ?
De Santos, au Brésil. Je suis revenue saluer un vieil ami. Et puis aller à Belleville, au théâtre. C'est facile de deviner à quoi vous pensez. Vous dévorez cette petite fille des yeux.
Mon fils fait exactement la même chose qu'elle. Il ne marche jamais, il court, il sautille, il saute, il s'immobilise, il traîne. Mais marcher, non.
Il s'appelle comment ?
Max. Il a 6 ans. Je suis là pour le travail, comme vous pouvez le voir. Je vous offre un café ?
Un verre de Chablis, volontiers.
Un verre de Chablis, s'il vous plaît. Bon.
Vous avez l'air préoccupé.
Oui, c'est idiot. Je n'arrive pas à joindre ma femme et mon fils. À chaque fois, je tombe sur le répondeur. J'ai l'impression d'être parti depuis trop longtemps.
J'ai quelque chose qui peut vous aider. Un porte-bonheur. Attendez, évidemment, je ne la trouve plus.
Les sacs des femmes.
Vous gardez vos remarques sexistes pour vous, je vous prie. Tenez. C'est à vous.
Ah, c'est sûr, c'est pas à moi, je suis même pas baptisé.
Je sais, fidèle.
On se connaît ?
On s'est déjà rencontrés. Ici, au café, comme maintenant.
Je crois pas, non ?
Je suis venue vous rendre ce que vous m'avez donné un jour.
Et je vous aurais donné cette croix ?
Vous l'avez mise autour de mon cou. J'avais 6 ans.
Ce serait quelqu'un d'autre que vous, je croirais qu'il est fou.
Bitte behalte dieses Kreuz mit dir.
Wie heißt du?
La reine des hasards. C'est toi qui as trouvé ce nom la première fois que nous nous sommes vus. Tu me regardes comme si j'étais le sphinx. Tu ne me reconnais pas. Je pourrais te dire, nous nous sommes croisés si peu dans les fractures du temps. Je pourrais te dire notre amour comme une chanson. Bref, évident, inabouti. Une rêverie. Tu as gardé la croix. Une petite croix protestante, en argent, attachée à un collier tout fin, un bijou d'enfant. Je ne t'ai plus vue.
Tu ouvres la porte de la chambre de ton hôtel.
Tu t'assois sur la courte pointe. Tout y est, n'est-ce pas ?
Le poids de ton corps ?
Le renfoncement du matelas épais, un peu dur ?
Les plis sur le satin du duvet ?
Le rectangle immatériel de la fenêtre ?
Ta valise doit être dans le placard. Tu ne la vois pas.
Tu peux regarder tes mains.
Sentir l'odeur de propre de tes mains.
Et dessous, l'odeur un peu animale que tu as gardée depuis que tu es tout petit.
Dans le fond de ton oreille, au creux de ton cerveau, il y a le murmure discontinu de la radio des voisins qui donne le flot des informations.
En allemand.
Que dit la radio ?
Tu ne peux pas l'écouter vraiment, mais elle est là en permanence.
Elle parle de...
Elle murmure.
Crachote.
Elle ne peut pas se taire.
Elle t'empêche de dormir.
Elle t'agace.
Elle t'exaspère.
Et bientôt, tu sors de la chambre. Pas en claquant la porte, non. Cela n'est tellement pas dans ton caractère.
Mais tu fuis. Tu dévales l'escalier. Tu as besoin d'être dehors. Dehors.
Tu veux juste rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui te voit. Qui te parle.
Quelqu'un qui fera taire la voix qui répète que quelqu'un est mort.
Quelqu'un est mort, mais qui ?
Qui ?
Qui ?
Tu ne veux pas le savoir.
Pas ton fils, non.
Les fils peuvent-ils mourir ? Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas ?
La voiture noire comme un monstre gueule ouverte.
Tu refuses.
Tu remontes le temps. À quel moment a-t-il été dit que les fils peuvent mourir ? Tu démonteras ce moment.
Tu es arrivé au café en courant. Ton regard survole les gens attablés. Femmes seules, hommes au travail, beaucoup des jeunes, pas de sphinx. Tu es tellement déçu. Pourtant, rien n'a été promis.
Un café, s'il vous plaît.
Garçon, s'il vous plaît.
Tu te retournes.
Une femme te regarde.
Une femme te regarde avec insistance, sans sourire, grave. Un peu tremblante.
Ce regard.
Enfin, tu me reconnais. Tu t'assois à ma table. C'est la deuxième fois que je te vois. Tu n'as pas changé.
C'est elle, le sphinx. Mais elle a 25 ans. Peut-être moins. 23.
Elle redescend le temps.
Tu le remontes. C'est vous. Vous savez que je ne connais toujours pas votre nom.
Fidèle.
Fidèle.
Ce n'est pas un prénom qu'on entend beaucoup. Cela vous choque si je vous dis que je suis mariée, mais que je suis infidèle?
Non. Moi, je suis fidèle. Et vous, vous êtes qui?
Annelise Doria.
Enchantée.
J'ai une question et une seule, et je veux que vous me répondiez. Quand mon mari rentre, nous nous disputons tellement que j'en viens à le frapper. Dois-je rester? J'ai eu mon bébé en avril. Dois-je rester? Si je pars, mon mari gardera l'enfant.
Et vous devez décider ça maintenant.
Là, maintenant. Avec vous.
Y a-t-il pas moyen d'arranger les choses?
Je ne sais pas. J'ai aimé mon mari. Je l'ai aimé follement. Mais aujourd'hui, il met sa petite cravate quand il s'en va au travail et il ferme la porte à clé en me laissant dans l'appartement. C'est insupportable.
Quelle vie voulez-vous?
Mais je veux tout. Je veux voyager, je veux continuer à être comédienne, enfin je veux aimer, je veux que personne ne me dise quoi faire ou quoi penser.
Vous allez me prendre pour un fou, mais je vous ai vu hier, à 80 ans. Vous habitiez au Brésil. Vous étiez très heureuse.
Vous avez raison, vous êtes fou.
Annelise, c'est très simple en vérité. Tu veux partir, tu pars avec ton enfant. Tu veux partir sans ton enfant, tu veux rester. Tu peux tout faire, tout. Tu es reine. Tu peux changer de chemin. Danser en fermant les yeux ou sauter par-dessus les pays. La route naît sous tes pas.
Voyez, je vous connais à peine et j'ai déjà envie de partir avec vous. Ce n'est pas très sérieux, n'est-ce pas?
Tu as très envie de l'embrasser, mais...
Quand elle se penche...
Quand elle se penche vers toi...
Tu vois son pendentif, petit bijou d'enfant... protestante, celui que tu gardes tout contre toi.
Comment une chose peut-elle être à deux endroits à la fois?
Tu ne te souviens pas d'ensuite.
Tu es ailleurs.
Tu es dans ta chambre d'hôtel.
Tu t'es endormie tout habillée. La radio crachote toujours par petits ressacs.
Bien petites les pommes, hein? Tout petit.
Oui, oui.
Qu'est-ce que tu ferais si je mourais?
Pourquoi? Tu veux être incinéré?
Oui, mais... Qu'est-ce que tu ferais si tout d'un coup je disparaissais?
Tu veux disparaître? Passe-moi le vinaigre, s'il te plaît.
C'est très bien ce que je veux dire. Tu pourrais vivre sans moi? Et si je perdais tous mes cheveux à cause d'un cancer et que je devienne atrocement maigre? Tu resterais avec moi, quoi qu'il arrive.
Mais déjà, je reste avec toi. Profites-en.
Vous êtes bizarres, vous, les Allemands. Pas de problème pour se mettre tout nus, tous ensemble, et se baigner au milieu des forêts, mais à se parler d'amour, ou se caresser la main, oulala.
Si tu mourais,
je serais tellement triste que je ferais régner une nuit éternelle sur le monde. On ne pourrait plus distinguer le jour de la nuit. Et tout serait sombre. Avec de gros nuages lourds. Et même la nuit, on ne pourrait pas la nommer. Tant il pleuvrait sur la ville, sur les routes, sur le pays entier. Quand enfin j'aurai pitié de ces pauvres êtres vivants, incapables de vivre sans lumière, je partirai loin, avec Max. On irait aux Seychelles ou dans le golfe du Mexique, quelque part au paradis. Max ferait de la plongée au milieu des poissons colorés, et j'attendrai que les 40 jours de deuil passent, ou les 120, ou les 120 ans. Et quand le deuil serait fini, que je serai dorée comme une statue du Mexique et prête à affronter le monde. J'ouvrirai la bouche et je pousserai un hurlement tellement glaçant qu'il assécherait les poissons à l'intérieur des océans.
À mon réveil, l'empreinte de son corps dans les draps du lit.
Tu te lèves. Tu ne veux pas rester là. Tu as peur de mourir là, dans ce lit de tristesse.
Tu te demandes pourquoi il pleut sans cesse, depuis si longtemps.
Tu passes la main sur tes habits, dans tes cheveux. Tu te défroisses.
De l'eau sur le visage, dans la bouche, comme une prière.
Tu n'as pas besoin de réfléchir.
Tu retournes au Nemours, la chercher.
Encore une fois, rien n'a été promis.
C'est la nuit quand tu entres dans le café.
Au Nemours, il y a...
une petite fille très bien habillée, chic de la tête aux pieds.
Le col Claudine, la robe de velours bleu, les chaussures à brides qui se balancent sous la table.
Elle en a assez d'attendre et elle commence à avoir peur. Elle ne lève plus les yeux.
Une petite fille remarquablement bien habillée.
La nuit est tombée. Le café s'est rempli d'hommes, de femmes portant chapeaux et voilettes. Ils viennent dîner.
Installée dans un recoin isolé, la petite fille reste assise, sagement. Le serveur fait des va-et-vient en l'ignorant totalement. La patronne commence à se poser des questions.
Réfugiée ? Française ? Pas une petite du quartier.
À qui elle est, cette gamine ?
La patronne se dit qu'elle va appeler la police.
À 9h, elle appellera la police.
Bonjour.
La petite ne lève pas les yeux.
Elle n'est pas idiote. Elle connaît l'histoire du loup qui a l'air gentil et les consignes de sécurité.
Elle les connaît en allemand et en français.
Je te connais. Tu es la reine des hasards.
Elle se tait. Elle est là pour attendre sa mère.
Elle attend sa mère. Cet homme n'est pas sa mère. Elle n'attend donc pas cet homme.
Liebchen.
Elle le regarde, étonnée.
Maman dit qu'il ne faut pas parler allemand. Surtout dans les lieux publics.
Un café est un lieu public, avec beaucoup de public.
Liebchen, wie heißt du? Tu ne veux pas me dire comment tu t'appelles?
Nein.
La petite fille secoue la tête.
Alors laisse-moi deviner. Et j'ai droit à plusieurs chances. À combien de chances j'ai droit?
La petite fille montre 3 doigts.
3. Pareil. Voyons. Annalisa, Isabella, Cunegonda, Patatita de la Princesa de Oro.
Non.
Elle a une toute, toute petite voix.
Elle te regarde maintenant.
Annelise.
La petite fille ouvre des yeux ronds.
Annelise, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup.
Comment tu sais?
Je te connais. On s'est déjà vu. Mais tu ne t'en souviens pas encore. Qu'est-ce que tu fais là?
J'attends ma mère.
Depuis longtemps ?
Oui. Elle a dit qu'elle arrivait à 7 heures. Et il est presque 9 heures.
Ne t'inquiète pas. On va l'attendre tous les deux maintenant. Je vais te raconter une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais enfant, moi aussi. J'ai connu un homme arbre, tu sais. Je l'aimais beaucoup. Un jour, il a décidé de retourner dans la forêt. Il me racontait des histoires. De là d'où il vient, on pratique la chasse à l'enfant, dans les villes, dans les campagnes. Un très bon gibier. Petit, malin, vif, sans intérêt une fois qu'il est tué.
Non, l'intérêt de la chasse, c'est qu'il en reste toujours un. Toujours un vivant. Et c'est ça le défi. Les tuer tous. Souvent, les gens ont pitié. Ils en sauvent un, deux. Les enfants, c'est attendrissant. Leurs grands yeux. Ils n'y arrivent jamais à les tuer tous. Il en reste toujours un. Au moins un. Souvent bien plus. Alors, ils espèrent que celui-ci, celui qui restera, aura tout oublié, qu'il ne connaîtra pas son histoire, et que lorsque viendra le temps du jugement, le temps du grand tribunal, il ne pourra pas parler. Et de fait, souvent, la plupart des bourreaux s'en sortent. C'est comme ça. Mais il en reste toujours un, au moins un enfant. Et de celui-là, naît une nouvelle génération. Dans la chair de cet enfant, dans chacun de ses os, il y a les chansons des autres. Il n'a pas besoin de les connaître. Il n'a pas besoin de les chanter. Quand il bouge, elle chante à travers lui.
C'est comme un arbre, tu comprends ? Un arbre avec des branches immenses, jusqu'au ciel. Et quand le vent les traverse, quand la lumière se baigne dans ses feuilles, on entend les chansons.
J'ai déjà entendu ton histoire. Je connais la chasse à l'enfant.
Oui.
Et moi, ils vont m'attraper ?
Toi ? Non. Toi, tu es la reine des hasards. Tu feras des choses extraordinaires. Quelle chose extraordinaire aimerais-tu faire ?
Voler.
Tu voleras.
Ce n'est pas possible.
Tu voleras jusqu'au Brésil, et plusieurs fois.
En avion ?
Oui.
Je savais qu'il y avait un truc. J'aimerais aller au bord de la mer, en Espagne, avec ma maman. Il faut passer la frontière.
Oui.
J'aime danser le Charleston.
Tu danses. Personne ne t'attrapera. J'ai un cadeau pour toi. Je suis venu te rendre quelque chose que tu m'as donné il y a très longtemps. Je peux le mettre autour de ton cou ?
Elle hoche la tête.
Tu lui passes le collier autour du cou.
Tu sors du café.
La petite fille s'est évanouie.
Mademoiselle,
ses parents ne sont pas là ? Ça fait des heures qu'elle est là toute seule.
Dégrafez-lui son col, elle est toute.
Les gens s'agitent autour d'elle. Tu n'es plus là.
Elle a une croix.
Bah quoi ?
Bah c'est bizarre, non ?
C'est une croix protestante, c'est tout.
Dis donc, tu t'y connais, toi, Edmond, en croix protestante ?
Je m'y connais toujours plus que vous en étoile de David, si c'est la question.
Oh, Edmond, c'est pas un clapet que t'as, c'est la poste centrale.
Donnez-lui un peu d'eau sucrée, ça va la requinquer.
Du sucre, vous en avez de bonne.
Laissez-moi passer. Ma fille, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Tu ne vois pas la petite fille s'évanouir. Les adultes se précipitaient vers elle, l'auto qui s'arrête devant la porte.
C'est sa mère qui est là. Elles s'en vont. La mère ouvre la voie.
Elles vont être sauvées. Annelise le sait déjà.
Je sens le pendentif frais sur ma peau. Grâce à lui, Les adultes ont cessé de s'interroger sur mon identité. Il vient de me sauver la vie. Je tiens la main de ma mère et nous entrons dans la nuit.
Toi, tu es là, avec nous, prêt à entendre ce qui s'est passé.
Il y a le trajet vers l'école. Il y a sa main dans la tienne. Tu penses que bientôt il ne voudra plus que tu lui tiennes la main. Bientôt cela sera incongru. Bientôt tu n'en auras même plus l'idée. Tenir sa main, un privilège. Ses doigts sous ta caresse, à peine une pression.
Il y a une femme au volant.
Un 4x4 noir.
Tu as toujours pensé que les 4x4 noirs étaient comme une représentation moderne de la mort.
Il y a un 4x4 qui dévie et monte sur le trottoir. Vers toi, vers ton fils. Sans ralentir, sans accélérer.
Que fait la femme ?
La femme est anxieuse.
La femme est en retard.
La femme récupère son portable qui a glissé sous le siège du passager.
Le 4x4 grimpe sur le trottoir. Tu prends ton fils dans les bras et tu le jettes, hors de portée vers les buissons. Un pas pour l'attraper, un pas pour le lancer. Deux pas, c'est trop court pour éviter. Et le 4x4 te fauche, et tu ne sais pas si ton fils est vivant. Tu meurs projeté contre le sol quand ta tête éclate. Et tu meurs sans savoir si ton fils est vivant. Et tu ne peux pas mourir sans savoir si ton fils est vivant. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas mourir sans savoir si ton fils est vivant. Tu l'as lâché, tu l'as jeté, poussé, tu l'as pris et jeté comme on jette dans le futur, comme on jette à l'eau, comme on jette par la fenêtre pour se sauver des flammes, comme on jette par-dessus les barbelés. Avant ce geste, tant de fois le même geste. Prenez-le, sauvez-le, sauvez mon enfant.
L'enfant dans la barque au fil de l'eau.
L'enfant déposé sur les marches.
L'enfant tendu hors du train, hors du car.
L'enfant porté sur les épaules sur le chemin de montagne.
L'enfant tiré sous les barbelés.
Tenu hors de portée de la gueule des chiens.
De génération, génération en génération.
Berger, pêcheur,
paysan.
Le même geste.
Tenir l'enfant à l'abri.
Le porter haut, en sécurité.
Porter l'enfant en sécurité. Le porter haut, le mettre à l'abri. Max est en train d'apprendre à lire. Il note que les murs sont couverts d'écritures, publicités, affiches, graffitis. Il lit sur les gens couverts de mots, slogans. Il s'arrête pour reconnaître les syllabes sur les bornes de gaz. Il déchiffre même les trottoirs. Max est en train d'apprendre à lire. Il ne peut pas mourir avant de savoir lire. Tu l'as pris et soulevé. Des générations et des générations qui prennent l'enfant et le soulèvent. Et maintenant, rien. Tu n'es plus là pour le protéger. Tu es nulle part. Et nulle part, c'est Paris. Paris n'existe pas. Tu l'as recréé de toutes pièces, avenue après avenue, touche de gris sur touche de gris, comme un magicien s'illusionne lui-même. Un miroir tourné vers le ciel pour ne pas voir si le corps de ton fils gisait fracassé à côté du tien. Tu refuses de mourir. Tu refuses même de te souvenir que tu es déjà mort. Tu inverses le temps et tu t'inventes un monde où tu serais loin des tiens, mais où tu les rejoindrais bientôt. Bientôt. Je t'accompagne une dernière fois, mon ami. Je chante pour toi le récit des morts.
Tu viens de sauver la petite fille.
Tu quittes le café. Et dehors, ce n'est plus la nuit.
Ce n'est pas Paris non plus.
C'est ta ville. C'est Halle. Un quartier que tu ne connais pas.
Une allée pavillonnaire, le printemps.
Un vent léger t'accompagne.
Fleurs de cerisier sur les branches.
Tu comprends que tu es mort.
Tu te souviens de ta mort.
Tu es dans un jardin.
Un petit garçon allongé dans l'herbe est en train de lire une bande dessinée.
Max s'est plongé dans sa lecture, égal à lui-même, totalement absorbé, passionné.
Il a grandi, il a changé, il n'a pas changé. Ton cœur s'ouvre.
Il lève la tête vers l'arbre.
Le vent l'enveloppe.
Te voit-il ?
Sent-il que tu es là, près du cerisier ?
Il roule sur le dos. Tu peux voir son visage sérieux, fixé sur le livre qu'il tient au-dessus de lui.
Mon enfant, ma tendresse.
Tu reviendras le voir de temps en temps.
Tu peux disparaître maintenant.
La Reine des Hasards de Marianick Bello, avec Bernadette Le Sachet, Philippe Weissert, Daniel Kenitzberg, Laurent Ménoret, Samuel Charles, Sophie Dohl, Yael Eladad, Saadia Bentayeb, Miglen Mirtchev, Sarah Jane Sauvegrain, Pauline Hautepin, Alizée Soudet, Françoise Henri Kummer. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Valentin Azan-Zilinski, Bruno Mourlan. Assistante à la réalisation, Émilie Jocquiel. Réalisation, Juliette Eman. Vous pouvez retrouver le générique complet sur le site de France Culture.